On a vu donc une casserole sur le feu. C'est clair que ce qui s'y trouve là-bas est en situation de cuisson. Maintenant, Chazal ont donné des noms à différents ustensiles, plus ou moins éloignés de la source de chaleur. L'ustensile qui est sur le feu ou sur autre source de chaleur, on appelle ça klirishon. Klirishon, c'est-à-dire premier ustensile. Et la loi stipule que klirishon mevachel, un ustensile 1, d'accord, est cuit. Ça veut dire, non seulement quand il est sur le feu, mais même quand je l'ai enlevé du feu, tant qu'il a encore une température de yatsoulet de beau, c'est-à-dire les khumras, on considère cela comme 40 degrés Celsius, tant que la casserole, même qu'elle n'est plus sur le feu, elle fait encore 40 degrés Celsius, étant donné que c'est la source, cette casserole était sur le feu lui-même, donc elle est extrêmement chaude, tant qu'il y a 40 degrés dans cette casserole, alors elle cuit. C'est-à-dire que je ne pourrais pas y rajouter de l'eau ou quoi que ce soit. Elle cuit. Si maintenant je verse le contenu de la casserole, le klirishon, dans un autre ustensile, cet ustensile est appelé klisheni. Klisheni, c'est deuxième ustensile littéralement. Deux, parce qu'on a déjà passé du premier au deuxième. La loi stipule klisheni en omevachel. Le klisheni, le deuxième ustensile ne cuit pas. Mais certains poskim disent ça dépend quoi. Il est marqué qu'il y a certaines choses qui cuisent aussi dans un klisheni parce qu'elles ont une nature à cuire rapidement, facilement. L'Ashkenazim considère que presque tout est dans une situation de doute. On ne sait pas si oui ou non ça cuit rapidement. On la considère donc comme ce qu'ils appellent kalé abishoul. Kalé abishoul, choses qui se cuisent facilement. Donc chaque chose, à part l'eau ou la viande, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Peut-être des légumes solides tels que des patates, des choses pareilles. Ils ont un doute que peut-être c'est considéré comme kalé abishoul, les choses qui cuisent facilement, et éviteront de les mettre dans un klisheni, de peur que le klisheni cuise. Les Sfaradim, parce que les Sfaradim ont une coutume d'être beaucoup plus laxistes à ce niveau-là, à part le thé et le café. Le café, on verra pourquoi, mais bon, aussi, le thé et le café, où ils disent que nos yeux voient que ça cuit. D'accord, tu prends un klisheni chaud, tu mets dans du thé, du café, ben, tu auras un thé normal, tu auras un café normal. Donc on voit que ça cuit. Bien que le café et le thé ont déjà été un peu rôtis au feu, d'accord, on va en parler ultérieurement, néanmoins, il y a une cuisson qui a lieu. Donc, si on fait un thé et un café, on le mettra dans un kli shlishi. Qu'est-ce que c'est qu'un kli shlishi? C'est quand on passe le contenu du kli sheni dans un autre ustensile qui devient kli shlishi, troisième ustensile. Il y a aussi certains poskim qui vont dire qu'un kli shlishi, il cuit quand il contient son contenu à une température égale ou supérieure à 40 degrés Celsius. Mais en gros, on peut dire que la majorité des poskim disent que non, et comme si on considère la halakha, que kli shlishi ne cuit plus, c'est fini. Même si dans un kli shlishi, on voit, on met noté, il est diffusé dans toute l'eau, on considère néanmoins que ce n'est plus une cuisson. Donc, kli rishon, il cuit tout. Kli sheni, deuxième ustensile, il cuit pas, à part les choses qui sont appelées kalabish, ou les choses qui se cuisent facilement. Qu'est-ce que c'est? Ashkenazim dit à peu près tout, sauf viande, eau, patates et choses de ce type-là. Nous, on dit à presque rien, à part thé et café. Kli sheni ne cuit jamais. Oui.
C'est pas prouvé scientifiquement que si on change le récipient de l'eau chaude à un verre et d'un verre à un autre verre, que ça tombe à moins 40 degrés?
Alors, la question est comme ça. C'est pas 40 degrés. Simplement, le Tosfot dit, étant donné que les parois sont froides, alors ça a moins d'intensité, de puissance de cuisson. Il faut croire qu'il y a une différence entre la chaleur de l'eau, du contenu, et aussi le fait que le contenant, lui aussi, il continue à diffuser de la chaleur. Étant donné que dans le cliché Nishlishi, le contenant, la casserole, l'ustensile, il a les parois froides à l'origine, donc non seulement il va capter une partie de la chaleur du contenu, du liquide, mais en plus il va pas à rajouter de la chaleur.
Vous avez dit que quand on regarde le thé, il se diffuse de la même manière, donc à l'œil, on le...
Pas tout à fait. En deux et trois, pas tout à fait. C'est pas aussi facile.
C'est-à-dire un verre chaud
Un verre chaud, clichy, ne cuit pas. Un verre chaud... Pardon ?
Je le mets dans un verre chaud déjà. Les parois, elles sont pas froides, elles n'ont pas de fusée.
Ah, c'est vrai. Il y en a qui aiment bien boire leur café chaud. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? La lacha dit qu'ils font un clichy. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un verre d'eau, ils mettent d'abord l'eau dans le premier verre, dans le clichéni. Donc, c'est dans le kumkum. Kumkum, c'est clérichon. Ils versent l'eau dans un verre clichéni. Et après, ils savent qu'ils doivent reverser maintenant dans un troisième verre. Mais le café, il va être trop froid. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent le verre sec sous le jet d'eau du kumkum, il devient tout chaud, et après, ils versent dedans. C'est pas valable. C'est pas valable. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vu que c'est chaud maintenant, alors c'est pas suffisant. Il faut que le clichy soit froid à la base.
J'ai pas compris quel pourrait être le problème avec des pommes de terre. Vous avez dit les Ashkenazim, ils sont marmirim sur justement
les clichy. Pommes de terre, ça ne se cuit pas facilement. Un morceau de tomate, un morceau de laitue, d'accord. On peut comprendre que dans un clichéni, ça cuise. Par contre, une patate, ça prend du temps à cuire. Donc, tu peux laisser des heures dans un clichéni, elle restera crue. Il n'y a aucun problème.
Voilà.
Donc, ce n'est pas un kelabichou, ce n'est pas une chose qui cuit facilement. Mais il y a des choses qui cuisent facilement. On a d'autres choses, les œufs, comme je dis, le thé, le café, les herbes. Ça se peut que c'est kelabichou. Donc, les Ashkenazim ont peur sur beaucoup de choses. Ils ont un doute que peut-être c'est kelabichou. Donc, ils sont marmérim. Ils prennent la vie plus rigoureux et disent, vu qu'on a un doute si ça cuit ou pas, on ne le met pas dans le clichéni. À part les choses qui sont très solides, telles que les patates, etc.
D'accord. Alors, par exemple, si j'ai maintenant ma table, etc., j'ai un plat, j'ai mis ma nourriture dedans, je ne peux pas le saupoudrer. Par exemple, si je veux saupoudrer des herbes de Provence ou quoi que ce soit, j'ai de peur que les herbes, elles cuisent dans le jus.
Alors,
le clichéni.
C'est un clichéni, absolument. Quelqu'un qui a un clichéni maintenant, qui contient de la sauce, etc., et des choses chaudes, qui ont plus de 40 degrés, il sera un problème de poser, d'après l'Ashkenazim, de poser dessus certaines épices, parce qu'il y a un risque qu'elles vont cuire.
Et
en clichéché, on peut. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Je vais attendre rajouter quelques petits détails. On va arriver aussi à ton cas. C'est un peu plus complexe. Il y a aussi les parties transitoires entre Kli Rishon et Kli Sheni, entre Kli Sheni et Kli Shlishi. On appelle cela Irui. Qu'est-ce qu'un Irui ? Irui, c'est le jet. Le jet qu'il y a, je prends le kumkum, d'accord ? Il est clair que si je prends maintenant un peu d'eau et que je verse de l'eau froide dans le kumkum, elle est cuite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, le jet qui sort du kumkum, on appelle ça Irui, mais Kli Rishon. Jet de Kli Rishon. Est-ce qu'il cuit, oui ou non ? Il y a différents avis. L'alakha, elle est tranchée, que ça cuit, mais que des klipas. Que des klipas, c'est-à-dire d'une épaisseur d'un filigrane. C'est quoi klipa ? Klipa, c'est lorsque je prends un aliment et je le coupe au couteau, l'épaisseur minimale que je peux couper au couteau pour que ça reste entier. D'accord ? Tu prends de la viande congelée par exemple, et tu la coupes le plus fin que tu peux. Cette finesse-là, ça s'appelle un demi-millimètre, 0,7 mm, ça s'appelle kedeklipa. Donc on dit que le jet, le hirou miklirishon, il cuit kedeklipa, mais il cuit de la Torah, il cuit, donc c'est vraiment une cuisson. Donc je ne pourrais pas, par exemple, prendre un steak cru, c'est pas très courant qu'on fasse une chose pareille. Prenons l'exemple du thé, d'accord ? Je prends maintenant du thé, et je verse directement depuis le kumkum sur des feuilles de thé qu'il y a dans mon verre. Alors, les feuilles de thé vont... Ah, c'est un mauvais exemple, parce que ce sont ces kalabichoules. Prenons un autre exemple. Bon, je prends... Qu'est-ce que je prends, moi ? Bon, un morceau de viande. Reprenons l'exemple du morceau de viande. Hein ? Non, je prends maintenant un morceau de viande, cru, d'accord ? Et je crois que ça se fait pas chinois, comme ça, on a des lamelles. Voilà, garpaccio de viande, d'accord ? Alors, je prends maintenant mes lamelles de viande très fines et je verse directement de l'eau chaude dessus depuis le kumkum. Il y aura une cuisson. Combien ? Kedeklipa, un filigrane, et c'est considéré comme une cuisson de la Torah. Du clichéni au clichéchi, on appelle cela irui mi clichéni. Irui, j'ai depuis un clichéni. Est-ce que ça cuit ou ça ne cuit pas ? Eh bien, ça dépend. Clichéni lui-même, il ne cuit pas. On avait dit qu'il cuisait les kalabichou, les choses qui se cuisent facilement, telles que le thé ou le café. Donc si maintenant je mets du thé, du café dans un verre vide, je prends maintenant un verre d'eau, klisheni, c'est-à-dire que j'ai versé dans ce verre-là de l'eau du kumkum. Ce verre d'eau est un klisheni. Il ne cuit pas normalement, mais on veut dire qu'il cuit les choses kalabichou, les choses qui cuisent facilement, telles que le thé et le café. Quand je verse maintenant l'eau chaude sur mes feuilles de thé ou sur mon café, je cuis que des klipas. Je cuis une quantité d'un filigrane, des feuilles de thé et des feuilles et des graines de café.
On va mettre l'eau et ensuite on met le sachet de thé.
Donc il faudra mettre d'abord l'eau et ensuite mettre dedans le thé et le café. Exception de l'arbre de Saint-Abba Shaoul, si on a des sachets de thé. Si j'ai un sachet de thé, je peux le mettre dans le klishchi vide, d'accord ? Je prends l'eau du klishchi et je verse dessus. Tu me diras, ah, mais quand je fais comme ça, je cuis une épaisseur d'un filigrane. Oui, mais tu cuis quoi ? Tu cuis le papier. Le papier du thé, on peut le cuire, ce n'est pas un problème, d'accord ? Il n'y a pas de cuisson dans le thé, dans le papier du café, ou le papier du thé, du sachet de thé. Donc, si les feuilles de thé sont à l'état pur, sans sa chair, on ne pourra pas verser d'un clichénine dessus parce qu'on cuit un filigrane de ce thé-là, mais si on a un sachet de thé, on pourra directement verser dedans. Ceux qui veulent super marmire, et c'est bien pourquoi pas, pourront aussi respecter l'avis le grand rabbin de Metz. D'accord ? Metz, une ville à l'est de la France, et il y a 800 ans, habitait là-bas, un des grands rabbinim des Balat Tosafot s'appelait Rabbi Eliezer de Metz. En hébreu, ils disent Mitz. Vous savez pas ce qu'ils disent Mitz, d'accord, Mitz. À besoin de Mitz, d'accord. Donc c'est le Re'em, le Yereim, au nom de son livre. Re'em, c'est l'abréviation de Rabbi Eliezer Mitz, d'accord, Re'em, ou le Bala Re'em, celui qui écrit le livre Yereim, qui lui dit qu'il y a un problème de coloration aussi dans la nourriture. D'après la Halakha, il n'y a pas de problème de coloration dans la nourriture. Alors il dit que si je prends maintenant de l'eau, on m'a dit comment on fait le klishchi. On verse l'eau dans le klishchi. Je prends du kumkum dans un verre, c'est un klishchi. Je verse dans un verre vide, froid, c'est un klishchi. Et là, je mets le thé dedans. Là, ça va, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand je mets le thé ou le café dedans? Ça va colorer l'eau. Il y a un problème de coloration. Là, la fin, c'est permis. La réserve de Mitz dit non, c'est pas permis. Alors, si on veut faire comme lui, et c'est bien, si possible, mais pas tout obligatoire, alors on fera, qu'est-ce qu'on fera? On mettra les feuilles de thé et de café, ou le café dans un verre vide et on versera du klishchi dans ce verre. Tu me diras, mais là aussi je colorie l'eau. Oui, mais ça ne se voit pas. Pourquoi ? Parce que si j'ai de l'eau limpide maintenant et je la verse dans du thé, on voit comment la couleur sort et comme ça on voit le phénomène de coloration. Par contre, quand j'ai du thé ou du café dans un verre vide et je verse dedans de l'eau, l'eau quand elle monte, elle est déjà colorée. Donc il n'y a pas de problème. Idem si quelqu'un veut se faire un sirop ou n'importe quoi, d'accord, il veut faire un mélange pendant Shabbat d'un liquide coloré avec un liquide qui n'est pas coloré, ce sera bien pour respecter l'avis de Rav Eliezer de Mitz, pas obligatoire mais conseillé, ne pas prendre le liquide coloré ou le sirop, de le verser dans l'eau, mais de le mettre dans un verre vide. Dans un verre vide, on met le sirop ou le liquide coloré, et dedans prendre l'eau, et comme ça, quand l'eau monte, elle est déjà colorée. Ça donne moins l'impression d'avoir coloré. C'est une khumra, c'est une mesure de piété, conseillée, mais certainement pas obligatoire.
Cette mesure, je comprends, parce que c'est un des 39 travaux de colorer la laine, ouais, et tout ça,
ouais,
et par rapport à la construction du temple. Mais cuire, c'est quel travail?
C'est aussi, la construction du temple. Aussi, il cuisait la teinture.
Pour colorer.
Tof, donc on a vu maintenant Klerishon, Sheni, Shlishi. Alors, oui, une chose importante aussi. Pourquoi un Klisheni ou un Klishishi ne cuise pas? Parce que les parois sont froides. Elles refroidissent le contenu. À condition qu'elles soient en contact étroit avec le contenu. Mais si maintenant je prends un œuf de la casserole, de la daf, d'accord, il est bouillant. Je le pèle, je mets mon œuf maintenant dans mon assiette. Est-ce qu'il est beaucoup... Je mets maintenant en klisheni, mais après en klishchi, en klirvi, d'accord. Ça change beaucoup. Est-ce que ça change quelque chose? Pas grand-chose. Parce que la surface de contact entre l'œuf et l'ustensile, elle est super petite, 1, 2, 3 cm pour l'œuf entier. Donc il est dur de dire maintenant que les parois de l'ustensile refroidissent l'œuf. On appelle cela chumrat gouche. Une chumra, c'est une mesure de piété de gouche. Gouche signifie une chose qui est compacte. Là, l'Halakha dit qu'une chose qui est compacte, elle n'est pas refroidie par le kli sheni, elle garde son statut de kli rishon. Alors, l'Ashkenazim, eux, ils considèrent que c'est comme ça l'Halakha. C'est-à-dire que si je prends maintenant un œuf, un morceau de viande, tout ce qui est compact, un gros morceau, d'accord, des pois chiches par exemple aussi, il y en a qui disent même du riz, d'accord, je le prends maintenant d'un kli rishon, de la casserole qui est de daf par exemple, je le mets maintenant dans une assiette, normalement c'est bon, on va dire que ça cuit, je pourrais par exemple rajouter de l'eau dessus, d'accord, eux ils disent non. Parce que, étant donné que la surface de contact entre le gouche, la chose compacte, l'aliment compact, et l'ustensile, c'est une surface qui est petite, donc il n'y a pas d'agissement, il n'y a pas d'action de refroidissement de l'ustensile sur l'aliment, donc l'aliment garde son statut comme s'il était encore dans la casserole, kli rishon. Et là vient le problème que tu m'as évoqué. J'ai mis maintenant dans mon assiette, je verse la daf dans le plat général, d'accord, c'est un kli sheni, en quoi, kli sheni, il n'y a plus de bichoul. C'est faux, pourquoi? Alors si la daf elle est dans du liquide, alors ça va, le liquide est en contact avec les parois et il refroidit les aliments qui sont trempés dedans. Si tu prends maintenant une daf qui n'est pas liquide, alors t'as l'œuf, t'as le morceau de viande, t'as un peu de pois chiche. Et toi, t'aimes bien manger épicé. Alors tu prends maintenant du poivre et tchic, 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 tu mets du poivre comme ça, d'accord, et un peu de thym, et un peu de zaatar, un peu de ce que j'en sais, d'accord. Maintenant, toutes ces petites. Le poivre, ce sont des choses qui cuisent facilement, d'accord. Tu les poses sur une source de chaleur qui est bouillante, qui n'a pas été refroidie par les parois. Il y a des avis qui disent que c'est bichoul. Parce qu'un estime considère qu'il y a bichoul, qu'il y a ici cuisson. Rav Ovadia Yosef, il dit que oui, aussi. Et Rav Ovadia Yosef, il est plus marmir, il est plus rigoureux que d'autres avis. Le Rav Islam Bachoul qui écrit que la coutume des Sfaradim est que nous ne faisons pas attention, on ne considère pas qu'il y a le problème de gouche, de cuisson, d'une chose qui est compacte, même en clichéni. Pour nous, il n'y a pas ce problème-là. Ou celui qui veut faire comme Rav Ovadia Yosef ou comme l'Ashkenazim et faire attention à cette Khumra, et c'est certain que c'est toujours bien de faire attention, il doit faire attention par exemple aussi si, par exemple, c'est une chose qui est courante, tu as ton plat, comme on mange normalement chez les bons juifs, d'accord, on fait une tzedakah, même aussi, et après on mange un plat avec certaines salades, du houmous, je ne sais pas moi, des trucs, de la salade de la boucha, d'accord, des machins comme ça, d'accord, puis après on amène le poisson. D'accord, maintenant, t'as ton assiette qui est passablement salie, d'accord, de toutes sortes de restes, de sortes de salades qu'il y a eu. Alors, t'as un peu d'huile, de vinaigre, de sauce de tomate, enfin, t'as un truc qui se balade dans ton assiette. Mais la ménagère qui t'amène maintenant le poisson chaud. Le poisson chaud maintenant, même qu'elle l'a mis maintenant déjà dans un clichéni, elle le pose dans ton assiette. Ça se peut que ce poisson, étant donné qu'il n'a pas été. Alors, si il baigne dans la sauce, ça va. S'il ne baigne pas, d'accord. Elle se le sert maintenant, il est bouillant, il se peut que lorsqu'elle le pose maintenant, la semaine avant qu'elle soit en contact avec le kli, même dans l'air déjà, c'est comme un hiroui quelque part, il est encore chaud. Et il va cuire les choses que tu as dans ton. La saleté, entre guillemets, d'accord, les restes de nourriture que tu as dans ton assiette. Donc faire attention à cela, pour ceux qui font attention à la khumra de gouche.
Je comprends, ici, quand on a des œufs, ils sont très chauds, on les met à côté de la nourriture qu'on a à côté, ça va cuire la nourriture qu'on a à côté.
Ça se peut.
Si on a de la salade ou pas, donc faut voilà. Le mettre avec de la nourriture qui a déjà été cuite.
Exactement. Pour ceux qui considèrent la khumra de gouche.
Maintenant, j'ai une question. Bon, on sait normalement qu'une épouse, elle suit le minhag de son mari. Maintenant, il y a une ménagère qui est séfarade, son mari ashkenaz, elle ne peut pas. Elle a saupoudré.
Non, une femme sarade d'un mari ashkenaz devient ashkenaz.
Elle est ashkenaz.
Voilà.
Ah bon?
Ouais. Et vice-versa, ça peut te consoler, d'accord.
Si le mari est sarade,
et qu'elle ashkenaz devient sarade.
Maintenant, si elle ne sait pas, elle a appris depuis petite chez elle à saupoudrer, par exemple, dans un plat, tout ça, est-ce que son mari a le droit de manger?
On a le droit, vu que c'est une marque, j'ai expliqué hier, qu'à chaque fois qu'on a un doute à propos d'une chose qui est produite de façon interdite, Shabbat, sauf qu'on a un doute, au niveau de la race, si cette chose est interdite à faire ou pas, qu'on l'interdit parce qu'on ne veut pas prendre de risque, au niveau de la consommation, c'est permis. Parce que la consommation est interdite des rabananes. Et ça fait que les rabananes coulent. Chaque fois qu'on a un doute pour produire une chose des rabananes, on peut prendre l'avis qui est laxiste. la louche qu'on utilise pour se servir. La louche, quand la ménagère se sert maintenant, elle va puiser maintenant de la soupe ou de la daf dans la casserole qui éclairichonne, d'accord ? Et pose maintenant dans le plat général ou dans un plat particulier. La nourriture qui se trouve sur la louche maintenant, elle perd son statut de clérichonne d'ustensile numéro 1 et reçoit, d'après certains avis, reçoit un statut de clichénie, parce que c'est un deuxième ustensile. Maintenant, quand elle replonge de nouveau sa louche une deuxième fois, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend de la nourriture qui est déjà clichénie, qui peut même des fois refroidie, et qu'elle remet de nouveau dans le clérichonne. Et là, il y a un problème de cuisson. Alors, Bessana Bachelot, il dit comme ça. Il dit, si la louche, on l'a trempée dans la casserole alors que la casserole était sur le feu, alors elle prend un statut de clérichonne, la louche elle-même. Donc, il n'y a pas de problème à ramener maintenant le reste, parce que tout ce qu'il y a dedans est encore dans le clérichonne. Vu qu'il y a un moment où cette louche était sur le feu lui-même, donc elle reçoit aussi le statut de clérichonne. Donc, il n'y aura pas de problème à ramener la louche dans le clérichonne, parce qu'elle-même est clérichonne. Par contre, si la casserole, comme c'est le cas plus habituel, elle n'est plus sur le feu, et là, tu te sers, alors il y a un problème à ramener maintenant la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra bien vider la louche, et là, on pourra la remettre. Vous me direz, non, mais il y a encore des petits restes comme ça. Les petits restes n'ont aucune importance. Pourquoi ? On va faire un peu de... On reprend nos anciennes lois. Psikresha delon yechale. Je vous rappelle que si on fait une action 1 qui est permise en soi, qui entraîne forcément une action 2 qui est interdite, si on est intéressé par le résultat de l'action 2, alors c'est interdit de la Torah. Si on n'est pas intéressé, c'est interdit des Rabbanan. Ok ? Maintenant, la ménagère, si elle prend maintenant des choses qui sont solides, du riz, d'accord ? Maintenant, le riz, en sortant, il reçoit un statut de clichénie, il refroidit, et maintenant, elle le remet maintenant à cuire dans le clérichonne. Il y a un problème ? Aucun problème. On avait dit qu'une chose qui est solide, on peut la recuire, pas de problème. Le problème sera pour une chose qui est liquide. Alors, elle prend de la soupe, d'accord ? Elle prend de la soupe maintenant, verse, en attendant, 30 secondes passent, le liquide qui est sur la louche s'est refroidi, arrive à moins de 40 degrés, là, elle remet dans la casserole clérichonne, ah, ça, il y a cuisson après cuisson. Alors, s'il y a peu de liquide, de reste de liquide sur la louche, je ne suis pas intéressé à ce que ce peu de liquide y soit réchauffé. J'en ai rien à faire. Ce n'est pas tout mon intention. Mon intention maintenant, c'est faire l'action 1, c'est de puiser de la soupe. Ce n'est pas maintenant de réchauffer les restes de soupe qu'il y a sur la louche. Donc, on a ici un petit grécha. C'est que je me sers maintenant, c'est action 1 qui en soi est permise, mais ça va entraîner une action 2. Forcément, que les restes de liquide qu'il y a sur la louche vont être cuits. Maintenant, je suis intéressé à ce que ça soit cuit, oui ou non ?
Ça cuit même si ça sort 20 secondes en dehors ?
Ça refroidit. Ça va arriver à moins de 40 degrés. D'accord ? On a vu aussi que quand on va dans l'autre sens, il faut considérer 70 degrés ou même des avis 80 degrés. Donc, rapidement, ça se refroidit. D'accord ? Donc, c'est arrivé à 60 degrés. C'est arrivé à 65 degrés. D'accord ? C'est un problème de remettre la louche. Il y aura une cuisson du reste d'eau. Il y aura une cuisson de cette eau dans la casserole. C'est complètement permis. Pourquoi ? Parce que, étant donné que je ne suis pas intéressé à ce que ce résidu de liquide cuise, c'est un psik recha d'elon yechale, un psik recha dont le résultat n'est pas important, mais égal. Je n'ai aucun avantage à cela. Ça descend à derabanan. Derabanan. Tu me dis, ok, il y a comme une cuisson derabanan. Non, pourquoi ? Parce que je vous rappelle que le fait qu'on dise qu'il y a une cuisson après cuisson d'une chose qui est liquide, c'est un safek dans l'alakha, c'est un doute. L'alakha, on est marmire. On ne prend pas de risque, parce que c'est peut-être qu'on fait un interdit de la Torah de Horaïta. Donc on va jamais, de l'eau, une soupe qui est froide, on ne va pas la réchauffer, même à 40 degrés, de peur qu'on fasse, d'après certains avis, on fait une cuisson de la Torah. Donc on interdit. Mais là, étant donné que je ne suis pas intéressé au résultat, et que c'est un psychrécha, ça descend à des rabananes. L'interdiction, même si cette eau elle va cuire maintenant, c'est interdit des rabananes. Or, on a une loi qui stipule, ça fait que des rabananes, les coups là. Quand on a un doute à propos d'une loi des rabananes, on prend la vie cool, la vie laxiste. Léger. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut un peu secouer la louche comme ça, s'il y a beaucoup de résidus, je suis quelque part oui intéressé à ce qui réchauffe. Donc, on la secoue un peu comme ça, qu'il n'y ait plus de résidus, beaucoup, d'accord, un peu, tac, et je peux la remettre dans la louche sans problème. Idem, ça arrive souvent, un monsieur gourmand de la maison ou la ménagère veut voir comment avance la DAF. Alors elle prend, ou qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ? Toc, il ouvre la casserole, il regarde, ça a l'air très bien, et regardez s'il y a des, ça serait mieux de mettre peut-être ça, oh, ça on discute un peu, en attendant, il tient le couvercle. Maintenant, le couvercle, il y a de l'eau condensée, de la vapeur condensée, d'accord ? Ça fait de l'eau. L'eau, elle descend 90, 80, 70, 65 degrés. 60 degrés, mon cher ami, si maintenant tu reprends le couvercle, tu mets sur la casserole, tu vas cuire cette eau-là.
C'est la même histoire que la louche.
Exactement, la même histoire que la louche. Alors, il faudra qu'il n'y ait pas trop de condensation, parce que là, je suis déjà intéressé à ce que cette eau recuise, mais s'il n'y en a pas beaucoup, sans problème, je peux remettre ce couvercle avec la condensation qu'il y a dessus. Il n'y a pas de problème de bichoule. Troisième cas aussi. On finira avec cela aujourd'hui. Quelqu'un a bu son thé, d'accord, et il veut se resservir de l'eau chaude. Est-ce qu'il doit essuyer le verre? On dirait que oui, parce que vu que le résidu d'eau qui est maintenant dans son verre, il est froid, hein, et il y a bichoua bichoul, une chose qui est liquide, il y a une attraction de réchauffer, et ça ne va pas. Non, ça va. Pourquoi? Parce que quand tu te sers maintenant, tu n'es pas intéressé à réchauffer ce résidu de liquide qu'il y a. Pas du tout. Donc, c'est un psychrécha d'Elonichale, et c'est un safek. Donc c'est des rabananes, et c'est un safek maintenant, c'est qu'ils sont en précuisson du résidu, donc c'est permis.
La paroi est chaude.
Elle est plus chaude que la butonté, ça va, quelle température elle fait? Elle est plus. Quand je dis chaud maintenant, il ne faut pas que ça baisse moins de 70 ou 80 degrés, c'est très très chaud. Là, ça s'est refroidi. Donc cela sera permis, il faudra évidemment qu'il n'y ait pas quelqu'un, si maintenant il prend un résidu qui est grand comme le doigt, ça ne va pas. Le Rav Yosef, il dit qu'il faut secouer, tu verses comme tu fais comme ça avec le verre, tu peux te servir directement, pas besoin d'essuyer. Mais il faut quand même verser le résidu pour pas qu'on puisse dire que je suis intéressé à ce que ce résidu y cuise. Si je suis intéressé, là ça devient un psychrécha des Nihale, que je suis intéressé, ça devient, ça fait que d'Oraita. Ça fait un doute pour une loi de Horaïta, et là, ça devient interdit. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.